Tout un monde.
Marie-Hélène Freixé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Alésia et après. Aujourd'hui, nous nous demandons comment s'est élaborée la société gallo-romaine et ce, à l'occasion de l'ouverture du centre d'interprétation d'Alésia et de l'année archéologique en Bourgogne. Nous sommes en compagnie de Patrick Leroux, Thierry Lugimbule, Pierre Ouzoulias.
A été attaqué.
Par qui?
Des tribus gauloises. Les pertes ont été sévères, César.
Tu as des chiffres?
14 000 hommes. Les Gaulois ont un chef à l'heure qu'il est. Il s'appelle Vercingétorix, à ce que l'on dit.
Tu sais où il se trouve?
À Alésia.
Combien de jours de marche?
8 jours. Vercingétorix est ici. 18 000 soldats sont avec lui. C'est la place forte la plus solide de toute la Gaule. Jamais nous ne la prendrons.
Il n'est pas question de la prendre. Nous allons construire un mur autour d'Alésia. Une fois piégés à l'intérieur, nous les affamerons.
Personne n'a jamais construit de fortification aussi importante lors d'un siège, César.
Nous serons les premiers à le faire dans ce cas. Que les travaux commencent maintenant. Le temps nous est compté.
52 avant Jésus-Christ, l'armée de César défait la coalition gauloise que commande l'Arverne Vercingétorix. À Alésia, au cœur de ce qui est aujourd'hui le pays d'Aussois, région Bourgogne, l'histoire bascule. Rome s'empare définitivement d'un énorme morceau de ce qui constitue aujourd'hui la France et les Gaulois s'apprêtent à devenir en quelques générations des Gallo-Romains. Un scénario de métissage ou de créolisation qui a été souvent mythifié, instrumentalisé politiquement et que les historiens et archéologues ont revisité de fond en comble depuis un demi-siècle. Comment s'est déroulée réellement cette occupation romaine? Quelle forme a-t-elle prise? Est-ce que les élites gauloises, comme c'est souvent le cas dans ce genre de circonstances, ont été le relais incontournable et parfois enthousiaste ou opportuniste de cette romanisation, un terme d'ailleurs contesté? Comment ont fusionné les religions, les coutumes? Pourquoi la langue gauloise s'est-elle effacée aussi vite? Autant de questions qu'on se pose en visitant le tout nouveau centre d'interprétation d'Alésia, près de Montbard, au pied de l'oppidum où se sont déroulés les derniers combats de la coalition gauloise et d'où Vercingétorix, qui n'était ni chevelu ni moustachu, contrairement à la statue géante érigée sur le site sur ordre de Napoléon III. Vercingétorix donc est descendu pour rendre les armes et livrer la Gaule à César. À ces questions ne répond pas exactement ce muséoparc d'Alésia signé de l'architecte Bernard Tschumi, qui avait aussi signé le musée de l'Acropole, car il est ici question surtout de détailler la fameuse bataille, étape par étape, un affrontement farouche de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qu'on peut suivre dans tous ses détails stratégiques et matériels au fil d'un récit très imagé le long d'un parcours semé d'écrans tactiles. Dans ce musée au parc d'Alésia, où l'on tient compte des derniers acquis de l'histoire et de l'archéologie, la première chose qui saute aux yeux, c'est que les Gaulois et les Romains se ressemblaient beaucoup plus qu'on ne l'a cru jusque-là. Et les Gaulois n'y apparaissent nullement comme des barbares. Et à certains égards, on va s'en apercevoir, ils sont même en avance sur les Romains. Donc l'impression qui se dégage sur ce site, c'est un étonnant effet miroir entre ces deux armées, un effet apparemment voulu par le directeur scientifique du projet, le conservateur du patrimoine, Claude Grappin.
La Gaule est organisée avec une religion qui est un panthéon et avec des croyances. C'est la même chose à Rome. On a longtemps dit que les Gaulois n'écrivaient pas. On sait que les Gaulois tiennent des archives. En revanche, ils n'écrivent pas de romans, ils n'ont pas de littérature écrite. En face, Rome...
Avec quelle graphie ?
Alors, ils utilisent tantôt les caractères grecs, tantôt les caractères latins. Au moment du siège, c'est plutôt les caractères grecs qui sont utilisés. Les Gaulois battent monnaie, comme Rome. Les Gaulois sont amateurs de vin, comme les Romains. Mais la vigne n'est pas encore cultivée en Gaule, sauf dans les environs de Marseille, puisque Marseille est une colonie grecque. Et le vin qui est consommé en Gaule est un vin qui est importé d'Italie. Il y a des relations commerciales extrêmement étroites entre l'Italie et la Gaule. Les Gaulois sont des artisans, notamment en matière de métallurgie, mais pas seulement, qui ont un savoir-faire reconnu au point que les Romains font réaliser par des Gaulois des équipements complets, que ce soit des Gaulois qui soient esclaves à Rome, ou bien des Gaulois qui sont en Gaule et on leur passe commande. Et tout ce mimétisme, ces jeux de différences et de points communs vont jusque dans l'armée, où nous sommes à un moment où les équipements militaires commencent à présenter de très fortes similitudes entre les Gaulois et les Romains. Il y a encore des différences. Par exemple, l'épée gauloise est une épée très longue, à bout plutôt rond, hein, dont l'extrémité est plutôt ronde. En revanche, le glaive romain est court avec une pointe longue.
Mais ce sont des armes en fer, toutes les deux, alors qu'on a longtemps cru que les Gaulois utilisaient le bronze.
Ça, c'était une croyance qui remontait au XIXe siècle. On pensait que tous les armements gaulois, depuis la nuit des temps jusqu'au moment où César est venu en Gaule, étaient en bronze, ce qui était une erreur. Et on pensait que le fer, qui, on l'avait compris, était une avancée technologique, on pensait que le fer était réservé aux Romains et aux peuples de la Méditerranée, ce qui était une erreur, puisque les Gaulois avaient connu le fer au même temps que les peuples de la Méditerranée et le travaillaient beaucoup mieux. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, ce sont les Gaulois qui sont les inventeurs de la cotte de maille et que les cottes de maille, dans un premier temps, étaient réalisées en Gaule ou par des artisans gaulois. Plus loin encore, les casques de l'armée romaine au moment du siège, les casques du légionnaire au moment du siège d'Alésia, sont des casques qui sont encore en bronze coulé, en bronze fondu. Alors que les casques des Gaulois sont des casques en fer qui sont techniquement parlant plus efficaces. À côté de ça, quelques décennies plus tard, et peut-être dès les moments d'ailleurs de la fin de la guerre des Gaules, quelques décennies plus tard en tout cas, l'armée romaine va adopter comme type de casque un casque en fer qui va être un d'un modèle gaulois.
Alors, première idée reçue visiblement à combattre, c'est la pseudo-barbarie des Gaulois. Bonjour Patrick Leroux.
Bonjour.
Vous êtes notre historien et vous êtes entouré de deux archéologues. Et les travaux très importants que vous avez faits au cours des dernières décennies, dont certains sont rassemblés dans un livre énorme, épais et très érudit, « La toge et les armes », ces travaux montrent à quel point le savoir historique, puisque vous êtes l'historien de cette rencontre, le savoir historique a évolué. Alors cette idée déjà du Gaulois barbare dominé par un Romain civilisé, c'est une idée qui prévalait encore il y a un demi-siècle ?
Elle prévalait certainement quand j'ai commencé à faire mes études il y a donc près de 50 ans. Et effectivement, c'est le travail essentiellement de l'archéologie qui a permis de redresser tout cela. Mais je voudrais ajouter un point aussi, c'est qu'il ne faut pas croire que ce sont les nouvelles découvertes qui changent tout. C'est aussi le regard que l'on porte sur les anciens textes et la grille de lecture que l'on utilise.
Alors vous êtes d'ailleurs historien et épigraphiste. Voilà. Donc vous avez déchiffré notamment les pierres et beaucoup d'autres choses.
Voilà, et je connais en particulier cette inscription d'Alésia qui disait depuis longtemps que Alésia était bel et bien à Alésia. Mais maintenant, nous avons de toute façon des fouilles magnifiques qui ont prouvé définitivement qu'il ne devrait plus y avoir de bataille moderne d'Alésia.
Donc c'est bien à Alice Sainte-Reine que se situait la bataille.
En tout cas, personnellement, je n'ai aucun doute et je crois que c'est partagé par la grande majorité de mes collègues.
On va demander aux archéologues ce qu'ils en pensent. Bonjour Pierre Ouzoulias.
Bonjour.
Alors vous, vous êtes un archéologue spécialiste, on va en parler tout à l'heure, du monde rural. Et vous avez publié il y a de ça 2 ans, avec Laurence Tranois, un livre qui est très éclairant sur notre sujet, « Comment les Gaules devinrent romaines ». Ce livre d'ailleurs, c'est un recueil de textes et c'est le fruit d'un colloque qui avait eu lieu au Louvre. Alors avec vous et également avec Thierry Lujimbul, que je salue, qui est archéologue aussi. Bonjour. Et qui lui a travaillé plus particulièrement sur la région Bourgogne. On va donc entrer un peu dans la vie quotidienne de ces gallo-romains, donc, qui sont le produit de cette rencontre. Thierry Lujimbul, vous qui avez travaillé en Bourgogne, vous avez travaillé spécifiquement sur le site d'Alésia ?
Pas réellement, j'ai surtout travaillé à Bibract, la grande ville forte du peuple édouin, donc qui commandait en Bourgogne à cette époque.
On va donc faire parler ces sites. Je vais revenir tout de suite vers l'historien Patrick Leroux. Donc peut-être pour qu'on donne très rapidement un calendrier de cette conquête des Gaules, parce que ce n'est pas en 52 avant Jésus-Christ que tout se passe. Il se passe des choses avant, il se passe des choses après.
Exactement. Alors 3 choses pour situer cette guerre des Gaules que nous connaissons donc par le récit de César essentiellement et qui porte sur 9 années en réalité, de 58 à 50 avant notre ère ou avant Jésus-Christ, comme vous voudrez. Première chose, la Gaule, ça n'existe pas. Les Gaules, pas davantage malgré César. Par exemple, le Rhin n'est absolument pas une frontière naturelle et donc il existe avant tout des peuples gaulois.
Ceci pour qui dire se fédèrent plus ou moins entre
ceci
eux.
Ceci pour dire que Vercingétorix n'était certainement pas à la tête de l'ensemble des Gaulois en 52. Il avait réussi à rassembler certaines forces, certains peuples, mais peut-être même pas la majorité. En deuxième lieu, César est certainement un grand général, mais ça n'est pas parce qu'il était un grand général que génialement il avait tout prévu année après année et que tout s'est déroulé selon un plan préconçu. Il n'avait certainement pas prévu Gergovie avant Alésia, par exemple. Et enfin, dernière chose, Alésia est restée un symbole dans notre roman national, mais je voudrais dire qu'en 52, après la défaite de Vercingétorix, la guerre des Gaules n'est absolument pas terminée. La preuve, c'est que Hirsus a prolongé l'année 51 et l'année 50. Et si on veut un terme, c'est à Uxellodunum, chez les Cadurques, dans la région de Cahors, que se termine la guerre des Gaules. Donc Alésia n'est pas ni ce point d'arrêt, ni ce symbole total qu'on en a fait.
Et la culture gallo-romaine avait commencé avant Alésia, en Provence par exemple.
Alors, la Narbonnaise est province depuis au moins 118 avant Jésus-Christ.
Donc ce laboratoire est déjà à l'œuvre.
Et ce sont aussi effectivement des populations gauloises, dont on dit qu'elles avaient été déjà préparées par Marseille et les Grecs, etc. Mais donc effectivement, ce que l'on appelle, il faudrait le rediscuter, le gallo-romain n'a pas commencé immédiatement après Alésia.
Alors ce que remarquent également les archéologues, c'est que cette romanisation, on parlera peut-être de ce terme tout à l'heure, elle est très diverse selon les régions, Pierre Ouzoulias.
Oui, bien sûr. En effet, quand on regarde la Gaule du sud vers le nord, on s'aperçoit que dans le sud de la Gaule, dans la Narbonnaise dont vient de parler Monsieur Leroux, il y a déjà des traits typiques qui font penser à un début de romanisation, même avant la conquête.
Quoi par exemple ?
Par exemple, le fait de construire des villes, de se doter de petits sénats, c'est-à-dire d'institutions politiques qui gèrent des collectivités, alors que plus on va vers le nord et plus ces traits spécifiques de la civilisation méditerranéenne sont absents. Ce qui posera d'ailleurs un gros problème aux Romains qui voudront transposer de façon uniforme sur tout le territoire de la Gaule les institutions et qui seront obligés de les créer quasiment de toutes pièces dans ce nord qui reste relativement barbare.
Alors cette romanisation, elle est également relative, c'est-à-dire elle se passe dans la continuité, Thierry Lujimbul. Il y a une espèce de fondu enchaîné, il n'y a pas du jour au lendemain, on devient gallo-romain.
Naturellement, cette hybridation va prendre près d'un siècle. Elle va conduire à la création, au développement d'une culture originale qu'on peut qualifier de gallo-romaine.
Autre question qu'on se pose, est-ce que cette romanisation des Gaules, et là je me tourne vers Patrick Leroux, est-ce qu'elle est différente donc de ce qui se passe en Espagne ? Puisque vous, Patrick Leroux, vous êtes un grand spécialiste de l'Espagne et vous êtes un spécialiste de l'histoire d'ensemble de l'Empire romain. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir de spécifique dans les Gaules ? Est-ce qu'on peut le dire ou le définir ?
Tout d'abord, les points de départ ne sont absolument pas les mêmes. Les Romains sont présents sur le sol ibérique depuis la fin du IIIe siècle avant notre ère, à l'occasion des guerres puniques. Tandis que la présence romaine dans les trois Gaules, je ne parle pas de la Narbonnaise, ne date effectivement que de la conquête de César. En second lieu, le caractère dit celtique des sociétés gauloises, et d'ailleurs on devrait dire les Celtes plus souvent que les Gaulois, eh bien, ces caractères celtiques sont évidemment différents de ce qu'était la civilisation ibérique ou de ce qu'étaient les Lusitaniens et la Bétique dans la péninsule ibérique. Donc c'est une question, si vous voulez, d'abord de rythme et de temps, et ensuite, en fonction du point de départ, eh bien, les développements urbains, les développements sociaux, les développements... Par exemple, la Gaule n'a pas eu beaucoup de sénateurs, je ne parle pas de la Narbonnaise, la Gaule n'a pas eu beaucoup de sénateurs, tandis que la Narbonnaise, elle, et la péninsule ibérique ont donné énormément de sénateurs au Sénat romain. C'est un trait qui les différencie par rapport à cette idée de l'influence de Rome et de, mots que les Français utilisent, mais pas tout le monde, l'intégration dans ce monde romain.
Mais la Gaule avait déjà des agglomérations, ce n'était pas que des fermes disséminées, il y avait quand même des concentrations urbaines.
Absolument.
Déjà.
Absolument, il y a ce que l'on appelle, alors les archéologues le diront mieux que moi, des proto-villes, c'est-à-dire en réalité des premières formes d'urbanisme, tandis que dans la péninsule ibérique, au moment de la conquête, il y a déjà des villes, y compris romaines.
Alors à quoi ça ressemble ces villes, Pierre Ouzoulias, ces villes gauloises avant que les Romains n'arrivent? On peut imaginer que ce n'est pas construit déjà dans les mêmes matériaux.
C'est pas sûr. On va de découverte en découverte et puis mon collègue pourra en parler pour Bibracte. Mais de plus en plus, on a le sentiment que, y compris dans les terres de la Celtique intérieure, comme par exemple à Bourges, dans le Berry actuel, il y a des techniques utilisées qui font tout à fait penser à celles qui sont maîtrisées par les Romains, c'est-à-dire de la pierre, des tuiles. Et on sait maintenant qu'il y a aussi des édifices publics. Donc, y compris sur ce domaine, on commence déjà à réviser nos points de vue et on sent bien que l'urbanisation gagnait la Gaule bien avant la conquête.
Un mot sur Bibracte, Thierry Lujimbul, puisque vous connaissez bien cette cité gauloise devenue gallo-romaine.
Pour Bibracte, on peut vraiment distinguer la romanisation ou l'acculturation progressive de la culture matérielle des objets qui là débute relativement tôt, à partir des années 120-110 avant Jésus-Christ. On voit un impact de la culture méditerranéenne sur la vie quotidienne des populations. Par contre, pour les constructions et notamment l'habitat privé, on a été assez surpris de réaliser en fait que la romanisation, l'apparition des tuiles par exemple, n'est pas antérieure à la conquête césarienne. Donc on s'attendait à trouver des manifestations de romanisation des matériaux de construction, des techniques architecturales avant cette date, et pour le moment à Bibracte, l'aspect de l'agglomération demeurait très gaulois avant le milieu du 1er siècle avant notre ère.
Alésia, et après, comment s'est élaborée la société gallo-romaine? Vous écoutez Tout un monde sur France Culture, le magazine des cultures et des identités en mouvement. Alors voilà, des cultures et des identités en mouvement. Il y a fort longtemps, certes, mais le schéma qu'on peut appliquer aujourd'hui pour les métissages ou les créolisations va certainement pouvoir être pertinent. Mais on va déjà peut-être parler des faits avec l'historien Patrick Leroux et les archéologues Thierry Lujimbul, Pierre Ouzoulias. Donc, quel est le scénario finalement? finalement de départ? Est-ce que c'est un, on peut avoir une espèce d'image décalquée de l'occupation pendant la dernière guerre? Est-ce qu'on voit arriver des gens en uniforme dans les villages qui disent maintenant nous sommes chez vous, les maîtres de votre petite ville, et c'est nous qui décidons? Comment se passe donc le maintien? Et on va se rendre compte qu'il y a un maintien de certaines formes d'autonomie et le pouvoir central donc, qui envoie ses tentacules. Alors peut-être Patrick Leroux pour commencer. Donc cette structure romaine s'installe
oui.
comment ?
Astérix parle de la France de Gaulle, pas de la Gaule antique. Et donc il n'y a rien de ce scénario avec une occupation de l'ennemi qui quadrille militairement un territoire et qui tient sous le joug et en respect les Gaulois. En réalité, il n'y a pas de programme de romanisation. Ce qui fait démarrer cette nouvelle domination, c'est en fait le statut de province que César donne dès la fin de ses opérations militaires à la Gaule. On appelle ça à Rome rédiger la Gaule en forme de province. C'est ce que dit Suétone lui-même. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir des procédures, notamment des procédures politiques, qui vont se mettre en place. Pourquoi ? Eh bien parce que les Romains interdisent à ces communautés de faire la guerre. Et donc, privées de la guerre, elles sont contraintes de cultiver la paix. Et pour cultiver la paix, et pour en même temps avoir les conditions de le faire, et pour plaire à Rome de ce point de vue, eh bien elles vont s'organiser en communautés civiques, en communautés politiques, qui se rapprochent du système méditerranéen plus que du système donc celtique auparavant.
Est-ce qu'il y aura eu des actes de résistance isolés, un peu le dernier carré, je ne sais pas?
Alors il faut revenir aussi sur ce problème. On a pendant longtemps, par fierté nationale, été donc jusqu'à l'époque de Domitien pour dire que la Gaule avait résisté jusqu'au dernier moment à Rome. Et il y a eu effectivement quelques mouvements sous Auguste. On a évidemment considéré que le rassemblement à Lyon de tous ces peuples gaulois en 12 avant Jésus-Christ montrait bien combien Rome craignait ces Gaulois. On a parlé de terror gallicus qui n'existe dans aucun texte. Et enfin, vous avez la révolte de 21 et, on parlait de mai 68, la guerre de l'année des quatre empereurs où la Gaule a joué un rôle. Et tout ça, finalement, c'est simplement, si vous voulez, une intégration dans un monde politique qui est l'Empire et qui n'a pas forcément des traits spécifiquement gaulois.
Alors comment ça se passe justement politiquement cette intégration? Quelles sont les formes du pouvoir? Quelles sont les contraintes? Comment la loi change? On a du mal à imaginer ce scénario.
La plus grande contrainte, je vous l'ai dit, c'est la province.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas une espèce de structure finalement imperceptible?
Non, la province c'est un gouverneur. Alors ça n'est pas une structure identitaire, on est d'accord. Personne ne dit je suis de la Lyonnaise ou je suis de la Belgique, personne. Mais, comment dirais-je, il y a un gouverneur qui a un édit. Cet édit fixe les règles pendant ses années de gouvernement. Et il y a une deuxième chose, c'est que César a pris soin, en faisant une province, de fixer à 40 millions de sesterces l'impôt que les Gaulois doivent payer. Et donc, l'impôt plus ces règles que fixe l'édit, qui sont d'ailleurs faites pour protéger les citoyens romains qui se trouvent dans la province. Et les cités qui ne sont pas romaines ou latines ne sont absolument pas contraintes d'utiliser ce droit. Elles gardent leur propre droit, mais c'est quand même le point de départ, si vous voulez, d'une mise en marche d'un système civique méditerranéen.
Et Rome expédie beaucoup de Romains dans la Gaule, à l'intérieur de la Gaule. Est-ce qu'ils sont très présents ou... Alors, est-ce que c'est... Alors Pierre Ouzoulias hoche la tête d'un air dubitatif.
Oui.
Parce qu'apparemment, vous...
On ne les trouve pas beaucoup.
Oui.
On les trouve
sur
pas
le
beaucoup.
Terrain, vous, les archéologues, vous C'est-à-dire voyez peu de présence romaine.
On en sait fait. En effet qu'après après les guerres de conquête des Gaules et puis après différents épisodes qui se passent en Italie, notamment les guerres civiles, il y a eu des vétérans, donc des anciens militaires, qui ont été installés sur le sol de la Gaule. Ça, on le sait par les textes et il n'y a pas de raison d'en discuter la réalité. En revanche, archéologiquement, pour l'instant, on a énormément de mal à savoir où ces gens habitaient, dans quoi ils vivaient. Sans doute que leur présence n'est pas aussi importante que ça, d'un point de vue quantitatif.
Patrick Leroux ?
Oui, précisément, dans les années 60, à l'image un peu de ce qui s'était passé aux États-Unis et ailleurs, on voyait des courants migratoires depuis le IIe siècle avant. Et je rappelle qu'en Gaule même, dans les trois Gaules, c'est-à-dire, je ne parle pas de la Narbonnaise, il n'y a même pas de colonie, hein, à peine. Donc, il y a à peine de vétérans. Et donc, si vous voulez, Rome n'a jamais fait de ses provinces des provinces de peuplement. De la même façon, d'ailleurs, que la citoyenneté romaine, quand elle est octroyée à d'anciens soldats, etc., c'est un privilège honorifique. Ça n'a rien à voir avec notre citoyenneté aujourd'hui.
Alors la province, donc, c'est la structure administrative, et la cité, donc, est-ce qu'elle reste très indigène ou est-ce qu'elle est un mélange de Gaulois et de Romains, puisqu'on sait que chaque cité va garder une identité très forte. Alors que peuvent nous dire par exemple les archéologues là-dessus ?
Alors ça serait plutôt un historien, oui. un historien de parler. Mais d'abord il faut bien comprendre que Auguste, c'est quand même celui qui après César a organisé d'un point de vue administratif la Gaule, a fait face à un monde d'une extrême diversité et qu'il a pris des positions qui étaient parfois très autoritaires pour constituer des entités politiques avec lesquelles le pouvoir romain voulait discuter.
Un exemple ?
Par exemple, on pense à la cité de Nîmes, dont on sait qu'elle était composée d'une multitude de petits peuples un peu autonomes, une vingtaine.
Oui, c'est la Méditerranée, ce mélange, ce grand passage.
Auguste, à un moment donné, a rassemblé tout ça pour constituer une cité autour de Nîmes, qui était une ville importante, à laquelle il a donné un certain nombre de monuments, dont son rempart. Donc là, il y a une volonté politique forte. Est-ce que ça a été le cas partout en Gaule ? Certainement pas. Et ailleurs, il a fait avec l'héritage gaulois, notamment parce qu'il y avait des régions où déjà s'étaient organisées des choses qui ressemblaient à des cités,
petits sénats. En un mot, ce qui domine, c'est l'impression de brutalité, d'autoritarisme, ou au contraire, l'impression de négociation diplomatique avec un travail fin sur le terrain ?
Il y a les deux attitudes, c'est-à-dire ceux qui ont été hostiles. L'ont payé fortement. Pour le reste, Rome a laissé faire localement, mais il y avait des divisions à l'intérieur des communautés. Mais pour prendre un autre exemple qui n'est pas Nîmes, qui est une colonie, Bibracte a été déplacée au profit d'Autun, ville romaine, et la cité
Auguste
est devenue
Dunum, Augusto Dunum.
Elle est devenue Augusto Dunum. Voilà. Et à partir de ce moment-là, alors ce qui est important, c'est le régime juridique des cités qui, en Gaule, reste ce que l'on appelle étrangère au droit romain, c'est-à-dire pérégrine en majorité.
Alésia et après. Aujourd'hui, nous cherchons à savoir comment s'est élaborée la société gallo-romaine à la lueur des plus récents travaux des archéologues et des historiens. On vient de parler un petit peu de la cité. Maintenant, je voudrais qu'on regarde du côté des campagnes, parce qu'on sait bien, quand on parcourt la France, qu'un peu partout, on vous présente des sites gallo-romains. Pierre Ouzoulias, vous êtes un spécialiste de la villa gallo-romaine, cette fameuse villa qu'on visite dans différents endroits. On nous explique que c'était ça, le signe de la pénétration romaine à l'intérieur des campagnes, donc ces sortes de domaines agricoles qui étaient en même temps des domaines de villégiature.
Tout à fait. Alors, il faut d'abord chasser un a priori. C'est que pendant des années, on a pensé qu'il y avait un avant et un après la conquête. Donc avant, il y avait une agriculture gauloise rustique, archaïque, qui est arrivée à développer des subsistances, juste ce qu'il faut pour nourrir la population. Et puis après, la conquête, d'un seul coup, Rome intervient et installe partout une agriculture rationnelle, sophistiquée, qui est celle des villas.
Alors, c'est pas vrai du tout. C'est comme pour les armes, on le disait tout à l'heure. Est-ce que les Gaulois auraient donné des exemples aux Romains ?
Bien sûr. D'abord, on sait qu'il y a un essor de l'agriculture gauloise qui est plus ancien. qui date environ, pour le nord de la Gaule, parce que dans le Midi c'est encore différent, du 2e siècle avant Jésus-Christ. Dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, on voit un changement dans les pratiques agricoles qui deviennent plus perfectionnées, et puis surtout une multiplication sans précédent du nombre de sites, du nombre de fermes. Donc César pénètre dans un territoire qui est une campagne très cultivée. La preuve en est, c'est qu'il ne manque jamais de subsistance. Enfin, il va la voler chez les uns, chez les autres, mais il ne manque jamais. Donc là, il y a déjà un essor agricole qui est important et qui ensuite est poursuivi grâce à la conquête, parce que d'un seul coup, ces populations de la campagne peuvent accéder à des marchés commerciaux qui sont bien sûr beaucoup plus importants et qui permettent donc de commercialiser ces biens produits par ces grosses entreprises agricoles que sont les villas.
Donc il y a un effet de boom en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Qu'on ressent de façon très très nette par l'archéologie, parce que à peu près au 1er siècle après Jésus-Christ, il y a une multiplication tout à fait phénoménale. On multiplie par 4 ou 5 le nombre de sites. Et d'un seul coup, les campagnes se couvrent alors de villas, un peu, mais aussi de beaucoup de petits sites. Parce que pendant très longtemps, on a retenu de l'agriculture gallo-romaine uniquement la villa, et maintenant on s'aperçoit qu'à côté de ces villas, il y avait des petites fermes qui parfois étaient aussi très compétitives.
Alors les savoir-faire dans ces petites fermes étaient assez élaborés, et on va venir assez rapidement aussi à ce qu'était le forgeron de village, au fond, la métallurgie, qui, quand on la lit telle qu'elle est décrite par le travail des archéologues, on a l'impression qu'on assiste au travail des forgerons tels qu'on pouvait les connaître encore juste après la dernière guerre.
Tout à fait, et on peut donner un exemple qui est important pour l'agriculture, c'est celui de l'invention de la faux. La faux est une invention gauloise et les premiers exemplaires de faux se trouvent d'ailleurs en Suisse, sur le site de l'Athènes. La faux, c'est une révolution parce que ça permet de faucher, donc de couper le foin. Et c'est un instrument que les Italiens, les Romains, ne connaissaient pas. Et c'est un instrument qui est extrêmement difficile à forger, qui demande un savoir-faire tout à fait particulier que maîtrisaient parfaitement les Gaulois. Donc là, c'est un exemple d'un objet qui est symptomatique de cette évolution de l'agriculture.
Alors, on comprend bien que les Romains apportent les circuits commerciaux, donc effet de boom économique. Est-ce qu'ils apportent quand même des technologies précises, importantes, puisqu'on est en train de dire que les Gaulois, au fond, savaient tout faire avant l'arrivée des Romains? Oui, Thierry Lujambul.
Il y a quelques apports indubitables de techniques nouvelles, notamment le travail du verre, son soufflage par exemple, qui est une technique purement méditerranéenne qui s'implante en Gaule. Et dans d'autres domaines, comme la production des céramiques, on a aussi l'implantation de techniques qui sont purement méditerranéennes, le tour rapide, le four bicaméral, le four à tubulure, les céramiques engobées, vernissées. Donc il y a des échanges de techniques de part et d'autre.
Est-ce qu'on a une idée de ce qu'était l'univers esthétique des Gaulois avant les Romains? Parce qu'on voit bien qu'avec les Romains arrive, dans les maisons notamment, une notion de luxe, de raffinement. À quoi ça ressemblait un raffinement gaulois avant l'arrivée des Romains?
On connaît les principes de l'art celtique, qui est un art non figuratif très, très élaboré et qui va en fait décliner pour quasiment disparaître peu après la conquête. On peut restituer des intérieurs de maisons gauloises avec des peintures murales également, très, très colorées, mais des motifs de tradition indigène. Les murs étaient certainement couverts de tentures, de couvertures qui pouvaient être certainement de très bonne facture. On a peu de données sur le travail du bois, mais les poutres, les palissades pouvaient être sculptées et même très richement ornées. Mais bien sûr, la romanisation va amener dans ce domaine, en tout cas, une rupture avec l'imposition, mais aussi par la volonté des nouveaux gallo-romains d'adopter en fait des conventions artistiques et surtout des modes de vie méditerranéens.
Alors, il y a un aspect quand même que l'archéologue voit bien, c'est l'émergence de l'hygiène, en quelque sorte, puisque c'est l'arrivée des thermes. Ça, par contre, les Gaulois étaient dans l'ignorance du bain chaud. On a l'impression que... Oui, Thierry Lujambul ?
Ils n'avaient pas de bain chaud comme les Romains ou les Grecs l'entendaient.
Mais ils étaient
propres. Ils avaient déjà un véritable souci d'hygiène. Le savon, par exemple, est une invention gauloise. Et les populations celtiques passaient pour particulièrement soucieuses de leur hygiène, même auprès des auteurs méditerranéens, grecs ou romains. Et peut-être que des petits bâtiments ou des petits locaux qui servaient à des bains de vapeur existaient déjà dans le monde celtique, mais ils sont difficiles à mettre en évidence archéologiquement.
Alors, puisqu'on est dans les univers régionaux, est-ce qu'on peut considérer que c'était les sociétés gauloises qui étaient moins... On a souvent cette image un petit peu par rapport aux sociétés sans État. Est-ce que c'était des sociétés plus égalitaires, les sociétés gauloises? Et est-ce que les Romains ne vont pas arriver avec une espèce de hiérarchisation sociale? Alors, vous dites tous non de la tête. Donc, qui en parle? Peut-être Patrick Leroux.
Bon, bien, une généralité, puis je pense que mes collègues pourront préciser davantage, ces sociétés sont des sociétés aristocratiques, qui sont donc très inégalitaires. Il y a les embâcles, les clients, il y a donc ce que certains considèrent même comme des groupes d'esclaves. Bon, on n'ira peut-être pas jusque-là, mais donc ce sont des sociétés, au contraire, très aristocratiques et qui, de ce point de vue-là, se rapprochent davantage de la société romaine.
Et on va avoir une alliance de fait entre les élites gauloises et les élites romaines.
Je ne sais pas si on peut parler d'alliance ou d'alliance de fait, mais il est vrai que les chefs gaulois, ou plus exactement ceux qui, après la défaite et après la pacification romaine, vont devenir en quelque sorte les nouveaux primores, c'est-à-dire les nouveaux premiers de leur cité, eux vont effectivement regarder vers Rome. Politiquement.
On va donner sa fille gauloise en mariage
peut-être
à un riche
pas,
romain.
Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'en réalité, ils vont faire dans leur cité ce qu'ils pensent que Rome en attend pour que ce soit paisible et pour qu'ils conservent aussi une forme d'autonomie.
Est-ce qu'on peut parler pour reprendre encore un terme qui est très connoté XXe siècle, d'une forme de collaboration des élites avec l'occupant romain, ou est-ce que c'est une notion qui est à côté?
Enfin, pour moi, le terme de collaboration est vraiment tellement daté que je pense qu'on peut le mettre de côté. C'est vrai que dans Astérix, on le retrouve, c'est normal. Mais on ne peut pas parler à proprement de collaboration. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui effectivement ont joué le jeu en quelque sorte de ce qu'ils considéraient être l'avenir de leur cité et qui ont joué la carte romaine, si on veut parler comme ça. Mais c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus compliqué.
Alésia et après, comment s'est élaborée la société gallo-romaine? Alors nous essayons de comprendre à la lueur des travaux et d'une manière évidemment un peu rapide à nous tous après d'aller approfondir des connaissances, mais on essaye de faire le point de ce que l'archéologie, la science historique ont pu apporter comme fait nouveau donc dans cette hybridation entre la société gauloise et la société romaine. Alors tout de suite, un aspect évidemment auquel on pense, c'est la manière dont les dieux se sont affrontés, hybridés, puisqu'on sait très bien que, on le voit bien un peu plus tard avec l'implantation du christianisme, il y a des formes de syncrétisme qui sont à l'œuvre, et on peut imaginer que chez les Gaulois et les Romains, il y avait des dieux qui carrément ont été éradiqués, mais d'autres qui se sont un petit peu métissés. Alors Thierry Lujimbul, vous avez beaucoup travaillé sur cette question, à la fois en Bourgogne, sur vos sites helvétiques. Qu'est-ce qu'on voit à l'œuvre sur les lieux de culte, par exemple?
On peut rappeler que Rome a procédé avec les Gaulois comme elle l'a fait avec les autres populations provinciales. Donc Rome imposait son panthéon officiel, le culte de la triade capitoline par exemple, donc Jupiter Optimus Maximus, Junon et Minerve, le culte de Rome divinisé lui-même, puis le culte des empereurs, mais autrement les populations provinciales jouissaient d'une certaine forme de liberté religieuse.
Donc, alors comment ça se met en place le culte des dieux romains ou le culte de l'empereur? Vous, archéologue, vous le voyez avec l'arrivée de certaines statues, de certaines inscriptions, comment est-ce qu'on le voit sur le terrain, donc, ce changement?
Tout est question de niveau, donc on a une religion officielle, provinciale, directement en relation avec la religion de Rome, qui est pratiquée dans des grands sanctuaires provinciaux, ou même des sanctuaires pour plusieurs provinces, comme le sanctuaire de Lyon, qui était le sanctuaire principal des 13 Galliae. On a aussi l'obligation faite aux cités, donc aux anciens peuples, de constituer un panthéon qui soit en fait compatible avec les pratiques romaines. Donc chaque cité va devoir se définir un panthéon en prenant des divinités classiques et en les hybridant, en leur attachant des particularités propres à leur panthéon.
Un exemple régional. Peut-être
Pour prendre l'exemple de la cité helvète que je connais bien, le dieu du peuple helvète, le dieu de la tribu, ce qu'on pourrait appeler le Toutatis des Helvètes, Caturix, va être associé avec Mars pour créer une divinité nouvelle, hybride Mars-Caturix, qui était en fait une sorte de représentant divinisé de la Civitas.
Et on a dans cette hybridation donc des cultes une impression d'un autoritarisme romain ou au contraire d'une négociation permanente? Qu'est-ce que vous sentez les uns et les autres?
En fait, au-delà des cultes obligatoires, donc le culte de Rome, de la triade capitoline, Rome tolérait et en fait ne se souciait pas trop des pratiques des cités qui constituaient ces provinces.
On ne vient pas vérifier et interdire.
Non, les cultes devaient être compatibles, ils ne devaient pas être démesurés. Donc les sacrifices humains, bien sûr, par exemple, ont été interdits. Le pouvoir de la classe sacerdotale druidique a par contre été annihilé, parce qu'à tort ou à raison, il était considéré comme anti-romain. Mais après, voilà, Rome ne considérait pas comme son problème de gérer la religion, et surtout la religion populaire des populations provinciales.
Donc il y a un très grand pragmatisme, c'est ça qui semble transparaître de tout ce que vous dites. Les Romains, au fond, n'imposent que ce qui est essentiel à leur pouvoir, et pour le reste, se révèlent très tolérants. Pierre Ouzoulias ?
Oui, tout à fait. Ce qu'on peut même ajouter, c'est que, contrairement à l'idée reçue, le fait que les Gaules aient été incorporés à l'Empire romain n'a pas provoqué une uniformisation sociale, culturelle, technique, mais bien au contraire, ça crée de la diversité. Tout simplement parce que Rome intervient dans un substrat, comme on l'a vu, qui est extrêmement varié, et les caractères spécifiques de cette romanisation, entre guillemets, font que ça développe plutôt de la diversité. Ce qui explique d'ailleurs un certain nombre d'évolutions des Gaules à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge.
Alors on a une image, Patrick Leroux, des Romains conquérants, mais est-ce que ce ne sont pas finalement encore plus de très grands négociateurs et diplomates?
Je ne dirais pas cela. C'est-à-dire que Rome, ce qu'elle cherche avant tout, c'est avoir la tranquillité et la paix.
Pax Romana.
D'où, on peut l'appeler la Pax Romana, d'où la cité est en réalité un élément de contrôle de l'Empire. Ça permet à l'empereur et aux gouverneurs, etc., de ne pas s'occuper du quotidien de l'administration. Et de ce point de vue, Rome leur laisse une pleine autonomie et donc n'impose rien. Effectivement, il y a un pragmatisme, il y a une grande tolérance par rapport à ce que nous pourrions imaginer de l'impérialisme, etc. Mais quand Rome décide quelque chose et qu'elle a parlé, ce doit être appliqué.
En ce qui concerne la culture, on s'interroge beaucoup sur la disparition très rapide de la langue des Gaulois. Comment ça s'est négocié, ça aussi? Est-ce qu'il était interdit de parler la langue gauloise? Est-ce que ça passait par une extension de l'enseignement du latin? On imagine mal le scénario. Car en très peu de générations, la langue a été totalement oubliée, Thierry Le Gimbule.
Non, la langue n'est pas oubliée, elle disparaît des actes officiels, et donc on n'en a que peu de traces épigraphiques ou archéologiques.
Elle se parle au quotidien.
Mais elle se parle au quotidien par une majorité de la population gallo-romaine. Il y a aussi une hybridation.
Pendant combien de temps, on peut avoir une idée ?
On a surtout des graffitis pour aborder ce type de questions, donc des graffitis sur des murs ou sur des récipients. Et on voit par exemple qu'au IIIe siècle de notre ère, on a encore une forte proportion d'anthroponymes, donc de noms de personnes qui étaient encore de langue gauloise. Et on a de très jolis exemples de phrases, souvent coquines ou bachiques, qui montrent qu'on parlait un mélange de gaulois et de latin. Le latin est la langue officielle, mais le gaulois est encore parlé, probablement jusqu'à l'extrême fin de l'Antiquité.
Donc, comment vous voyez ça, vous, Patrick Leroux, l'historien, la manière dont la culture s'hybride d'abord et l'indépendance de cette culture, la gauloise, s'efface ?
C'est-à-dire, moi, je pense effectivement que ça se fait par osmose. Et, alors, personnellement, j'essaye d'éviter les comparaisons entre le présent et l'Antiquité, parce que ce ne sont pas des comparaisons, puisqu'on n'est jamais dans le même contexte et dans les mêmes conditions. Mais s'il y a quelque chose qui peut nous donner un exemple, c'est quand nous voyons chez nous des générations de migrants qui arrivent, eh bien moi je vois que 40 ans après, sans être allé à l'école, sans rien, ils parlent plus ou moins bien le français et sont adaptés à la langue française. Je pense qu'en deux générations, trois générations, même sans école, le fait d'être baigné dans ce bain linguistique, de toute façon les textes officiels sont en latin, il faut se les faire lire en latin, etc. Ça permet progressivement et sans y penser de passer au latin. Mais comme l'a dit M. Le Gimbule, je crois que jusqu'à la fin du IVe siècle, on a des traces de celtique. Mais il faut bien faire attention, ce sont souvent des textes figés, fossilisés, ce sont des textes religieux. Et ces formules-là étaient certainement des formules très anciennes.
Alésia, et après, comment s'est élaborée la société gallo-romaine ? Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Alors bien entendu, on ne va pas faire le portrait exhaustif de ce qui a pu se passer sur le terrain, mais j'aimerais, puisqu'on a trois grands spécialistes aujourd'hui autour de cette table, Patrick Leroux, historien, et Thierry Le Gimbule et Pierre Ouzoulias, archéologues, donc on essaye de au fond, lister peut-être ce qui a le plus changé dans cette approche de la société gallo-romaine au cours de votre vie de chercheur. Quelles sont les idées qu'on a définitivement défaites ? Quelles sont celles qui ont émergé, qui ont vraiment changé la donne ? Alors, on commence par peut-être Thierry Le Gimbule.
On connaît mieux maintenant le rythme et les modalités des différents domaines de l'acculturation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on était surpris dans certaines régions de voir que l'architecture et les techniques de construction n'avaient pas du tout évolué avant la guerre des Gaules. Dans d'autres régions, au contraire, on observe que par le jeu du grand commerce, on a une forte acculturation de l'alimentation, notamment à partir du début du 1er siècle avant notre ère, ou même de la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est nouveau aussi, c'est que l'acculturation n'a plus du tout une image homogène, on en a parlé aussi. On a des territoires septentrionaux, ou peu septentrionaux, mais qui étaient hostiles à Rome, comme le territoire des Helvètes, qui sont très réfractaires à l'acculturation, aux apports méditerranéens, alors que d'autres, qui peuvent être assez septentrionaux, par leur ouverture au grand commerce, vont connaître une hybridation culturelle beaucoup plus précoce.
Alors est-ce que du coup, l'idée même, le concept même de civilisation gallo-romaine reste pertinent, Patrick Leroux ? Vu ses diversités, vu ses différences de rythme et ses calendriers différents ? Compte tenu du fait, on ne l'a quand même pas encore dit, qu'en général, on compte que ça dure 5 siècles. En gros, du 1er au 5e siècle.
Hein ? Disons qu'il y a des expressions riches et nombreuses de vie civilisée chez les Gaulois sous domination romaine pendant cette période. Mais moi, j'insisterai surtout sur un point qui me paraît fondamental et qui est pour nous celui qui, en quelque sorte, nous interroge le plus. C'est que c'est ce qu'a dit très bien M. Ouzoulias, c'est la diversité que l'on perçoit alors que pendant longtemps on nous a présenté une Gaule monolithique, une nation unie et rassemblée autour de Rome et qui avait, comment dirais-je, bénéficié en quelque sorte de Rome et qui avait été un bon élève de la classe. On invoquait Tacite, etc. Et en réalité, je vois que plus on travaille et plus les archéologues travaillent, mais plus les historiens écoutent aussi les archéologues, sachant que l'écoute est très difficile parfois entre les uns et les autres, parce que sur les problèmes d'interprétation en particulier, qui pour moi sont fondamentaux, c'est toujours difficile quand vous avez des faits et qu'il faut les mettre ensemble pour essayer de les interpréter. Pour moi, il faut croiser les regards, c'est-à-dire que la richesse des regards, c'est ce qui nous permettra aussi de mieux comprendre les choses. Eh bien, on voit que cette diversité, en quelque sorte, elle s'étend, elle se répand. Et là, il y a partout des inscriptions, il y a partout des statues de dieux, il y a partout des maisons, il y a partout de l'économie, mais les aspects qu'on en retire ne sont jamais tout à fait les mêmes, et les osmoses ne se sont jamais faites de la même façon, parce que Rome, de toute façon, n'a jamais romanisé, tout simplement.
C'est-à-dire ?
Eh bien, elle n'a jamais eu une politique de romanisation avec une éducation, des écoles, une politique qui voulait absolument, et même sa citoyenneté n'était pas un instrument de romanisation.
Donc on dirait, Pierre Ouzoulias, pour compléter ce que dit Patrick Leroux, que c'est du cas par cas.
Presque. Et je dirais qu'aujourd'hui, le point important, ça serait de revenir sur la question économique et sociale et se demander si les Gaules, quand elles ont été intégrées à l'Empire romain, finalement, elles ont pris la totalité du modèle économique et social que leur proposait Rome. Je n'en suis pas du tout sûr et je pense que même si les Gaules ont profité et ont eu un développement économique grâce à cette romanisation, elles l'ont fait en prenant plusieurs voies. Et vous voyez qu'il y a quelques résonances contemporaines à cette question, notamment dans la construction européenne.
Qu'est-ce qui aurait subsisté, par exemple, de manière très frappante pour vous, archéologues sur le terrain, de Gaulois et dans beaucoup de sites ?
Je pense que le nord de la Gaule a innové énormément dans le domaine de l'agriculture. Et je crois que l'agriculture médiévale a pour héritière directe l'agriculture qui s'est mise en place et qui est une agriculture novatrice et originale, non méditerranéenne, dans le nord de la Gaule.
Enfin, les Romains ont quand même apporté la vigne, puisqu'on parle beaucoup de la Bourgogne dans cette émission. On s'aperçoit, d'après les sites archéologiques, qu'effectivement, certains Gaulois buvaient du vin, mais c'était du vin importé. Or, après l'arrivée des Romains, nous sommes en Bourgogne, près d'Alésia, Thierry Légimbulle, vous avez fouillé, arrive la vigne, notamment le vin que nous buvons aujourd'hui.
La viticulture et la viniculture se développent effectivement après la conquête dans les Gaules, mais dans ce domaine comme dans d'autres, on assiste à la création d'une civilisation qui est en fait originale. Il n'y a pas des empreintes directes du monde méditerranéen, mais des adaptations aux réalités déjà climatiques et des terroirs. On a évoqué la question des grandes villes. Qui apparaissent et qui se généralisent dans les campagnes gauloises. Donc bien sûr, le concept même de villa rustica, de fundus est romain, mais on voit des adaptations et on a réalisé depuis peu que l'organisation spatiale d'un de ces grands domaines gallo-romains ne correspondait pas à ce qu'on observe en Italie. Et on a peut-être les antécédents de ces villes dans les grands domaines ruraux des aristocrates gaulois.
Je suis venu t'offrir l'éclat de ta victoire, que Rome validera, et dont elle assumera la reconnaissance perpétuelle, gravée dans quelques pierres indestructibles, ou rappelée par des flammes éternelles.
L'éclat de ma victoire fait peser plus encore les invisibles défaites de mon passé. Je t'ai offert d'être roi.
Alors accepte la reddition d'un roi.
Voilà, Christophe Lambert en Vercingétorix. Alors juste un mot, peut-être Patrick Leroux, Thierry Lujimbul, Pierre Ouzoulias, qu'est-ce qui vous intrigue le plus actuellement donc, dans cette société gallo-romaine, là, l'énigme, ce que vous aimeriez résoudre, le point qui reste vraiment tout à fait... Oui, Pierre Ouzoulias.
Ah là, la transmission du pouvoir économique et social entre les élites gauloises et les élites romaines. Comment pratiquement ça s'est fait? Bon, on a quelques idées, mais on a encore
pratiquement,
beaucoup à
apprendre. C'est-à-dire comment par...
On sent que dans certaines régions, il y a une transmission directe, familiale. Oui. Mais dans d'autres régions, on a le sentiment que ce n'est pas tout à fait les mêmes individus. Mais pourtant, on les retrouve quasiment aux mêmes périodes dans les mêmes régions. Donc, c'est ça la question.
Patrick Leroux?
Personnellement, en tant qu'historien, ce que je souhaite faire et ce que je pense nous devrions faire, c'est que depuis le 19e siècle, notre vision générale de l'histoire gallo-romaine n'a pas changé, ni dans certaines méthodes, ni dans certains concepts. Donc je pense qu'il faut, et en particulier ce qui l'emporte toujours, c'est l'idée qu'une province serait au fond une nation un peu moderne, à la façon parlementaire. On parle de l'Assemblée de Lyon comme d'une assemblée, un parlement des Gaules, etc. Et je pense qu'il faut progressivement essayer de détricoter, comme on dit chez nous, ces idées pour trouver une autre vie. Je n'aime pas, moi, personnellement, le mot de modèle, pour trouver d'autres pistes et d'autres... et en accord, si possible, avec les découvertes archéologiques.
Donc, ça sera le travail des jeunes chercheurs que vous
avez
formés.
Ah oui, ça ne sera plus le mien.
Thierry Lujimbul, en un mot, donc, ce qui vous semble aujourd'hui encore nécessaire de décrypter?
En fait, il faut reprendre les anciennes données. Il y a de nouveaux moyens d'investigation, des analyses physico-chimiques, biochimiques qui nous permettent d'avoir des informations nouvelles. Et ça nous permettra en fait de reprendre vraiment tous les domaines pour tenir un discours rafraîchi.
Donc l'apport de la science dure dans l'archéologie
est désormais fondamental.
Une occasion, en tout cas, pour nous qui sommes curieux de cette période de nous interroger, c'est de partir par la base, c'est-à-dire la bataille d'Alésia, le moment où commence cette « romanisation » entre guillemets des Gaules. Alors aujourd'hui, eh bien, au Musée au Parc, possibilité de comprendre un petit peu ce qui s'est passé à travers un beau bâtiment construit par l'architecte Bernard Tschumi. Et l'année prochaine, il y aura en haut, dans le Pidum, donc à Alésia, un musée donc qui sera plus scientifique. Bernard Tschumi.
Le musée, lui, sera engoncé dans l'oppidum, fera partie de l'oppidum, tandis que le centre d'interprétation côté romain est un objet qui est simplement posé sur la plaine, qui aurait pu être ailleurs, et qui est là pour, comment dire, refléter un peu la sensibilité militaire, si j'ose parler de sensibilité, de fortification, le travail sur la vêture de cette résille de bois massif qui est un ouvrage défensif, si l'on veut, est là pour parler justement de ce dialogue entre des assiégeants et des assiégés. Mais aussi un autre dialogue qui est très important, c'est le dialogue entre la nature et l'architecture. Le site est remarquable, il y a un cirque de collines qui est pratiquement intact depuis 2000 ans. Et nous avons voulu avoir un bâtiment qui, dans sa circularité lui-même, reflétait un peu ce cirque de collines et cette douceur.
Vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tu le, tu la, c'était la loi des Gaulois. Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le gui d'eau. Il coupait le gui, mais à propos, où coupait-il donc le ou? La chasse finie, les hommes réunis, plongés sur la nourriture. Au petit chilpéric, qu'était rachitique, on jetait les épluchures.
Voilà, on termine par un grand classique, la Java des Gaulois par Rice et Barrier. Alors pour en savoir plus, les ouvrages de nos invités, La Toge et les Armes, Rome entre Méditerranée et Océan par Patrick Leroux qui est paru fin 2011 aux Presses universitaires de Rennes, Comment les Gaules devinrent romaines sous la direction de Pierre Ouzoulias et Laurence Tranois. Beaucoup d'autres pistes en consultant notre site franceculture.fr à la page Tout un monde et en allant au musée au parc, même si vous n'avez pas de voiture, puisque depuis le TGV de Montbard, on vous propose des navettes. Voilà, beaucoup d'informations sur notre site. Consultez-le.
Il leur a dit, veni, veni, vidi, vici. On se tire à l'étif.
Tout un monde, le magazine des cultures et des identités en mouvement. À la technique se trouvait Bruno Mourlan, à la réalisation Philippe Baudouin. Tout un monde chaque mardi avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freissé.
Barbu, il guinchait le samedi au bal sur pilotis.
Et restez avec nous sur France Culture. Dans quelques instants, vous attend Marie Richeux. À mardi, en ce qui nous concerne.
Et la Gaule l'an dimanche chantait à plein gosier en trinquant à l'amour. L'amour!